Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans notre curiosité du soir. Salut à vous Thomas.
Comment ça va Sidonie?
Ah, super.
Bah, ça va bien, moi aussi. Salut les curieux. Au programme, les parrains de la côte après le coup de filet anti-drogue de lundi matin. À quoi ressemble le milieu marseillais plongé dans l'histoire du grand banditisme? Et puis cette question passionnante, que se passe-t-il dans notre cerveau quand on écoute de la musique qui nous fait plaisir, qui nous fait bouger et même consommer? On décortiquera les mécanismes de notre ordinateur central.
Et tout de suite, du sexe et de l'amour pour tous.
RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Depuis quand sommes-nous en couple?
Vous avez déjà oublié la date de notre premier La Curiosité.
Hein? Pourquoi?
Bah, depuis quand sommes-nous en couple? C'est facile de trouver la réponse, franchement.
Oh, mais n'importe quoi.
C'est désagréable.
C'est pas à vous que je parle.
Ça fait 10 mois. Hein?
Ah, dis donc, vous fêtez ça? Juste l'âge de ma fille. Et l'infidélité, on peut en parler. Tiens, Thomas, est-ce que vous avez fait des infidélités dans l'année?
Bah oui, franchement, j'ai une autre émission sur France 5.
Enfin, vous côtoyez d'autres femmes, très bien, journaliste. L'infidélité est-elle génétique? Sacrée question. L'orgasme, comment ça marche, hein, on se la pose à peu près tous, toutes ces questions et bien d'autres. On va les poser sans tabou à notre invitée, Corinne Soulet. Bonsoir.
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 Vous avez coordonné le nouveau Ça m'intéresse hors série, le guide de l'amour et du sexe. Parmi les articles passionnants de votre guide, un gros article nous a passionné sur la fidélité. Alors, c'est vrai que ça semble être un peu la valeur de nos sociétés modernes comme un incontournable au bon fonctionnement du couple. Mais est-ce que nous sommes nés fidèles?
Eh ben, pas vraiment en fait, désolée. Il y a une anthropologue.
Je comprends mieux.
Ouais, voilà. Il y a une anthropologue américaine qui s'appelle Helen Fisher qui s'intéresse à ça et qui a montré qu'en fait l'attachement au partenaire n'était pas inné. C'était le fruit de l'évolution. Donc, c'est pas apparu tout de suite.
Alors, c'est-à-dire, comment vivions-nous il y a 4 millions d'années?
Il y a 4 millions d'années, on vivait un peu comme nos cousins les grands singes, c'est-à-dire on était dans des groupes composés de plusieurs mâles, plusieurs femelles, on vivait dans les arbres, il n'y avait pas vraiment de couple. Tout simplement parce que la femme qui portait l'enfant sur le dos n'avait pas besoin de l'homme pour protéger sa progéniture.
Ah oui, on ne s'était pas mis debout encore, nous n'étions pas l'homme erectus d'il y a 1 million d'années.
Le changement, il est là, on en parlera dans quelques secondes, mais il y a, vous dites, une preuve, un avatar de cette période où la fidélité n'était pas la norme avant l'homo erectus. Ça s'appelle la période réfractaire. C'est quoi ça? Alors, dans le comportement de l'homme, dans la sexualité de l'homme, c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors, c'est pas vraiment moi qui le dis, c'est Philippe Bruno, qui est psychiatre, que j'ai interviewé pour le guide de l'amour et du sexe, et qui disait que cette période réfractaire, donc c'est la durée, le temps plus ou moins long après le coït avant de pouvoir retrouver une nouvelle érection, en fait.
D'accord, oui.
Voilà, qui est un avatar de cette époque d'il y a 4 millions d'années, tout simplement parce que pour lui, elle n'a qu'une seule fonction, cette durée.
Cette période réfractaire.
Cette période réfractaire, elle a une seule fonction, c'est de laisser la place à un autre partenaire, en fait.
Ah d'accord. Que le partenaire n'a plus d'érection. Et donc, il laisse la place à un autre homme qui, lui, aura une nouvelle érection. Et voilà. Donc,
ben, j'ai bien compris.
C'était une autre vie.
Non, vous me regardez droit dans les yeux, mais j'ai très, très bien compris ce qui se passait à l'époque.
C'est nos auditeurs que je
regarde.
Et alors,
l'attachement entre deux êtres, quand est-ce qu'il
alors,
naît
Oui, cette notion de couple.
Alors, d'après Helen Fisher, l'anthropologue américaine, il est né il y a 3,5 millions d'années. Donc à cette époque-là, en fait, l'homo devient erectus, c'est-à-dire qu'il marche, il se lève,
debout.
Il se met debout. Donc, c'est une prouesse incroyable, mais parallèlement,
ça change plein de choses en fait.
Ça change plein de choses. Par exemple, la femme ne peut plus porter son enfant sur le dos quand il est tout petit. Elle doit le porter dans les bras, et donc elle, c'est beaucoup plus difficile de le défendre quand elle est sujette à une attaque.
Elle est plus vulnérable parce qu'elle
est plus vulnérable. Donc elle a davantage besoin d'un partenaire pour la défendre.
Et puis elle n'accouche plus de la même manière, ça, elle accouche plus tôt parce que le crâne...
En fait, parallèlement, notre cerveau grossit.
Ouais.
Il y a 1 million d'années, entre 1 million d'années et 300 000 ans, le cerveau... la capacité crânienne faisait 800...
quelques centimètres, c'est ça?
Ouais, 800 centimètres cubes, en fait. Et c'est quasiment la capacité crânienne qu'on a aujourd'hui. Donc en fait, il faut accoucher plus tôt pour que ce crâne puisse passer à travers le bassin étroit des femmes.
C'est-à-dire que la gestation était plus longue avant.
Avant l'homo érectus. Et donc là, elle se raccourcit. Donc l'enfant qui naît est beaucoup plus vulnérable. On le voit.
Alors femme vulnérable, enfant vulnérable.
Il faut un papa.
Il faut un papa pour protéger tout ça. C'est comme ça que naît cet attachement.
Là, je me redresse sur ma chaise.
Voilà.
C'est drôle.
Alors, il faut un papa, mais il faut pas un papa pour toute la vie. C'est plutôt une monogamie transitoire puisque à un moment donné, l'enfant il se met à marcher, à devenir plus autonome, donc il n'y a plus besoin forcément de papa. Donc finalement, la fidélité elle est plutôt transitoire.
Et aujourd'hui sur toutes les cultures qui coexistent sur Terre, est-ce que la culture monogame est majoritaire ou est-ce que finalement c'est une vision très occidentale ?
Alors c'est une vision très occidentale. On a des chiffres qui diffèrent selon les sources, mais en gros on peut dire que sur toutes les sociétés humaines qu'on a pu étudier, il y a une société sur 8 seulement qui est monogame.
Donc c'est à travers les âges, hein.
Même encore aujourd'hui, la monogamie n'est pas forcément la règle.
On parle d'hommes qui ont plusieurs femmes. On appelle ça la polyandrie, c'est ça, les femmes qui ont plusieurs hommes?
Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment minoritaire. Ce serait 1% des sociétés humaines qui connaissent la polyandrie, une femme avec plusieurs hommes.
On parlait de fidélité et de ce fameux gène qui favoriserait la fidélité, et à l'inverse, cet autre gène qui pousserait à l'infidélité. C'est un fantasme ou il y a des études qui
c'est
prouvent...
des chercheurs qui cherchaient des excuses, en fait.
On dirait, un petit peu. De plus en plus d'études là, qui montrent qu'il y a des gènes qui favoriseraient l'infidélité. Pas forcément la fidélité, mais l'infidélité. Donc, par exemple, en 2014, on a une étude australienne qui a été portée sur 7400 jumeaux. Les chercheurs se sont aperçus que parmi ce groupe de 7400 jumeaux, les femmes infidèles avaient toutes la même variation du même gène, un gène qui s'appelle AVPR1A.
Notez bien.
Enchanté,
voilà.
AVPR1A.
Voilà. Si vous l'avez
bienvenue
pas.
Dans la curiosité.
Et ce gène, il est lié à la production de l'arginine vasopressine.
Oula.
Voilà, ça c'est encore un peu compliqué, mais en gros, c'est une hormone qui influe sur l'attachement entre les partenaires sexuels. Et donc, toutes les femmes infidèles auraient cette variation, enfin en tout cas sur ce groupe de jumeaux, auraient cette variation de
donc, elles seraient poussées à s'attacher à plusieurs partenaires, c'est ça?
Voilà, tout
en
à
même
fait.
Temps.
Ouais. Et parallèlement, un peu avant, en 2010, il y avait déjà eu une étude américaine, cette fois, qui portait sur 180 personnes. Et ils avaient montré qu'il y avait un gène, DRD4, lui, qui était lié au récepteur à la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, et qui montrait que les porteurs avaient besoin de sensations fortes et donc avaient plus de chances d'être infidèles.
Bon, ben voilà, c'est génétique, hein, l'infidélité, rassurez-vous.
Dans c'est un instant, ou pas alors, du coup, ça peut
y a
servir.
Un petit côté
oui,
excuse,
bah oui, on peut se débrouiller.
Dans un instant, on vous présente des scientifiques passionnés ou alors complètement fous. Ils ont fait de la compréhension de l'orgasme leur obsession.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Les mystères de l'amour, du couple et de l'orgasme, c'est notre curiosité du soir sur RTL avec un passionnant Ça m'intéresse hors série en partenariat avec RTL. Bon, on est toujours dans les bons coups, hein, nous, de toute façon.
Bonne blague.
Avec Corinne Soulet, responsable éditoriale du magazine. Vous nous présentez dans ce guide de l'amour et du sexe un couple, intrigant, direction les puritaines années 50. Nous sommes aux États-Unis. William Master et Virginia Johnson se rencontrent pour le meilleur et pour le pire.
Pour le meilleur. Oui, on a William Masters qui est gynécologue, qui est plutôt spécialisé dans la fécondation et la fertilité, et puis qui tout d'un coup se met à se passionner pour un sujet qui est boudé par la science, qui est le sexe et l'orgasme, parce qu'il trouve qu'on a vraiment pas tout compris.
Masculin et féminin.
Les deux, ouais, les deux.
Et Virginia Johnson, elle travaille avec lui.
Oui.
C'est,
alors pour mener ses études, il s'adjoint les services d'une assistante. Alors cette assistante en question, il la recrute de manière un peu particulière. En fait, c'est une ex chanteuse de cabaret. Elle a divorcé deux fois, elle a eu deux enfants. Bref, elle est censée s'y connaître un peu en sexe. En gros, c'est comme ça qu'il la recrute et lui demande de trouver des cobayes pour étudier donc l'orgasme au plus près.
Et donc elle va faire l'amour avec des hommes, c'est ça? Il va assister à leurs ébats. C'est
non,
quoi
ça,
l'histoire?
Ça, c'est votre fantasme, Thomas.
Je sais pas, je cherche à comprendre l'histoire.
Cela dit, c'est un peu ça dans le sens où ils vont se marier au final en 1971.
Ah,
donc
voilà,
c'est
belle histoire.
Voilà, il y a une mise en pratique, mais non, ils cherchent des cobayes d'autres personnes pour les observer en train de faire l'amour ou de se masturber et d'en tirer des conclusions.
Et qu'est-ce qu'ils vont découvrir alors, ces deux chercheurs, enfin ce chercheur, ce gynécologue et son assistante?
Eh ben, ils vont donc étudier plus de 300 femmes, plus de 300 hommes. La légende veut que Master, c'est vu 10 000 orgasmes et ils vont découvrir plein de choses, notamment des choses sur l'orgasme féminin, notamment que l'orgasme vaginal et l'orgasme clitoridien, c'est la même chose, c'est l'orgasme féminin, que la longueur du pénis, elle a aucune incidence sur la capacité d'un homme à satisfaire sa compagne.
Un ouf de soulagement.
Gros soupir de soulagement général dans le studio de la curiosité et pour nos auditeurs.
Et également que les personnes âgées peuvent avoir une sexualité tout à fait épanouie. Voilà.
Mais attendez, ça me fait penser à une série américaine qui s'appelle Master of Sex.
C'est l'histoire de ce
d'accord.
couple, tout à fait. C'est okay. exactement la même histoire.
Est-ce que William Masters, le gynécologue, et son assistante Virginia Johnson vont utiliser un appareil, une machine particulière pour mesurer, observer cet orgasme ?
Alors, ils vont utiliser des électrodes pour prendre le pouls, les variations de la tension, du rythme cardiaque, de l'activité cérébrale, mais ils vont surtout mettre en place une machine particulière.
Machine orgasme.
Voilà. Non, c'est une machine à regarder l'orgasme. Voilà. Donc c'est une mini caméra qui est mise dans un vibromasseur en verre et qui va permettre de visualiser le vagin en action lors de la masturbation.
D'accord.
Voilà.
On imagine ce gynécologue visionner des heures et des heures d'orgasme féminin
et
masculin. C'est quand même particulier. Bah oui, puisque si j'ai bien compris, c'est filmé. Hein.
Ah oui, tout à fait.
Et alors le couple va publier un best-seller en 1966, c'est ça ?
Ouais, c'est Human Sexual Response.
Et ça, c'est une révolution.
Ouais, ça va être un tabac.
60.
Donc ça va vraiment avoir un gros succès. Ça va être traduit en 10 langues et puis et donc ils y mettent ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir tout sur l'orgasme féminin.
Mais comment la société américaine réagit à ça, parce que comme le disait Sidonie, on est dans les puritaines années 50, donc c'est un tabou
c'est ils réagissent pas très bien. De toute façon, les études de Master et Johnson, en fait, elles sont aussi faites beaucoup sur les prostituées etc., un peu en cachette, parce que
c'est un peu la première fois qu'on parle du désir féminin.
C'est la première fois. Il y a eu Alfred Kinsey, je crois, qui s'est intéressé à la question juste avant, mais sinon c'était la première fois.
Alors après les maîtres du désir, un jouisseur sans entrave, vous allez comprendre pourquoi, qui est Wilhelm Reich.
Alors Wilhelm Reich, oui, c'était un psychanalyste autrichien proche de Freud, qui va s'intéresser de près à l'orgasme, qui va même être obsédé par l'orgasme.
Alors il va devenir un peu fou, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Alors il y a sa photo dans le guide de l'amour et du sexe de ça m'intéresse. Effectivement, quand on voit sa coupe de cheveux,
oui, il fait un peu peur.
Il fait un peu peur. Il a un peu une coupe en traviole. Enfin bon,
faut pas raconter un peu
sur RTL.fr. Allez-y, Sidonie.
Voilà. Oui,
si vous voulez poser la question pendant ce temps.
Oui, c'est ça. Alors attendez, je vais retrouver son nom, parce que là il m'échappe totalement.
Wilhelm Reich.
Il a une enfance très particulière, d'ailleurs, que vous racontez dans le Ça m'intéresse hors série, assez dramatique.
Je sais pas
si ça explique sa fascination après pour l'orgasme. Et...
C'est possible, en fait, ça commence assez mal. À 14 ans, il se rend compte que sa mère trompe son père avec l'un de ses précepteurs, et donc il va révéler la liaison à son père, et résultat, sa mère se suicide. Et puis, 3 ans plus tard, c'est son père qui décède. Donc, il avait une enfance un peu terrible.
Donc, il porte cette culpabilité-là, d'une certaine façon.
Il a sans doute cette culpabilité-là à porter.
Mm-hmm. Wilhelm Reich, il va faire une découverte en 1939, c'est l'orgone. Mais qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'orgone, c'est lui qui l'appelle l'orgone.
Ouais.
Il dit que c'est une énergie, en fait, de couleur bleue, qui a la forme d'une spirale, qui serait libérée lors de l'orgasme, dans le pelvis, et qui aurait plein de
vertus.
De vertus, ouais.
Et donc il décide d'en emmagasiner, c'est ça, dans une boîte à orgasme ?
Tout à fait. Donc,
il était vraiment fou, celui-là.
Voilà. Il crée une sorte de caisson en métal et en laine de roche, dans lequel il va emmagasiner, accumuler cette énergie, puis il va louer ces caissons à des patients pour soigner le rhume, l'arthrite, l'anémie et même le cancer en rajoutant un petit peu de radium, ce qui a eu des conséquences un peu malheureuses.
Bon, et ça va bien se terminer pour Wilhelm Reich ou
non, pas terrible. La justice lui interdit la location de ses caissons et puis il devient fou et il meurt en prison.
Une descendante de Napoléon maintenant qui va se passionner pour le clitoris au point d'essayer de le déplacer. On vous présente Marie Bonaparte dans un instant dans la curiosité.
RTL. J'ai jusqu'à 22h. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
avec le magazine Ça m'intéresse qui publie un hors-série passionnant sur l'amour et le sexe. On reçoit sa responsable éditoriale, Corinne Soulet, et on vous raconte des histoires et des destins passionnants, comme celui d'une femme obsédée par son clitoris. Elle s'appelle Marie Bonaparte, c'est l'arrière-petite-fille de l'empereur. Elle n'est pas très heureuse, c'est ça ?
Non, elle n'est pas très heureuse.
Non.
On est au début du XXe siècle. Elle a 25 ans. Elle se marie avec un prince de Grèce et du Danemark.
Mariage forcé, un peu ?
Non. Elle est plutôt. Elle veut sortir de son carcan familial. Et c'est, voilà, elle fait un mariage d'intérêt, effectivement. Mais elle est plutôt bien contente en couple. Son mari est homosexuel, mais elle a beaucoup d'amants. Donc, elle est plutôt contente. Et malgré cela, malgré une vie sexuelle plutôt bien fournie, elle n'a aucun orgasme. Elle est frigide.
D'accord. Et donc elle multiplie les amants en essayant de contrer cette frigidité, c'est
ça ? Tout à fait, c'est ce qu'elle fait. Donc elle multiplie les amants. Même Aristide Briand sera l'un de ses amants. Et rien à faire. Elle n'arrive pas à trouver l'orgasme. Donc c'est ce qui l'a conduit à s'intéresser à la sexualité féminine.
Mais elle est scientifique. Qu'est-ce qu'elle fait, Marie Bonaparte ?
En fait, elle se rapproche un peu de la psychanalyse. Elle va devenir une proche de Freud un peu plus tard. Elle va le rencontrer en 1925. Je crois. Mais voilà.
Et avant, du coup, elle se met en tête, Marie Bonaparte, pour comprendre pourquoi elle n'a pas de plaisir, elle se met en tête d'observer l'anatomie de centaines de femmes.
Tout à fait. Mais
qu'est-ce qu'elle veut observer ?
Alors, en fait, elle va faire des mesures sur 243 femmes, précisément, et elle va mesurer la distance entre le clitoris et le vagin. Et en fait, elle va catégoriser les femmes en trois catégories selon la distance, selon que cette distance en fait est petite, moyenne ou grande. Et elle va s'apercevoir que plus la distance est petite, plus le plaisir est intense et fréquent. Et bien sûr, elle fait partie de la catégorie des grandes distances.
Alors, d'accord.
Et donc elle y trouve forcément une
explication. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle décide de c'est ce qu'on a lu dans votre guide de l'amour et du sexe, de passer en quelque sorte aux travaux pratiques.
Tout à fait. Elle joue carrément les cobayes. Elle passe sur la table d'opération. Elle s'adjoint les services d'un professeur qui veut bien répondre à ses exigences. Et elle se fait déplacer le clitoris un peu plus bas. Et elle va subir trois opérations comme ça, successives.
On est à quelle époque ?
On est au début du XXe siècle.
D'accord.
Donc c'est vraiment quelque chose.
C'est pas la chirurgie d'aujourd'hui.
Non, c'est pas la chirurgie d'aujourd'hui. Et puis ce genre de chirurgie, en plus, n'est pas spécialement bien vu.
Mmh. Alors, elle fait déplacer son clitoris trois fois, si je comprends bien.
Voilà.
Est-ce qu'elle va finir par trouver le plaisir, Marie Bonaparte ?
Non, sans succès. En vain, elle le fera déplacer. Elle trouvera pas l'orgasme.
Donc il y a cette rencontre avec Freud. Ensuite, qu'est-ce que ça change ? Est-ce que ça... Comment je peux dire, ça lui ouvre de nouveaux horizons.
C'est surtout lui qui va subir son influence, parce qu'en fait, pour lui, au départ, pour lui, donc le psychanalyste autrichien qu'on connaît, hein, et pour lui, il y a deux sortes d'orgasmes. Il y en a un qui considère comme immature, infantile, c'est le clitoridien. Il estime que il est immature parce qu'en fait pour lui le clitoris c'est juste un vestige de pénis qui sert à rien. Mmh. Et puis un orgasme vaginal qui serait à favoriser parce qu'il est considéré comme plus mature.
Mmh. Et alors Marie Bonaparte, elle va lui dire quoi ?
Elle va lui dire non, le clitoris c'est hyper important.
Oui, mais à la fois elle sait pas vraiment comment il marche le sien, donc.
Non, mais elle s'est quand même aperçue qu'il y avait un rapport entre l'orgasme et le clitoris et surtout Freud également pensait que de toute façon qu'il soit clitoris ou vaginal, l'orgasme féminin était inférieur à celui de l'homme et assujetti en fait à l'orgasme masculin.
Inférieur, ça veut dire moins puissant,
moins important et assujetti à l'orgasme masculin finalement.
Freud n'a pas dit que des choses très intelligentes.
Oui, mais finalement c'est ce qu'on dit, c'est un peu ce qu'on dit souvent, que les hommes ont des orgasmes beaucoup plus forts que les femmes, beaucoup plus simples, bien moins compliqués.
Et
donc cette idée perdure.
Oui, c'est surtout parce que l'orgasme féminin a été étudié que tout récemment, et qu'on commence à comprendre que les deux orgasmes sont tout aussi complexes et tout aussi intéressants à étudier et tout aussi forts.
Par exemple, si on croit que l'éjaculation est forcément synonyme de plaisir, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que c'est la science, on peut répondre à cette question ?
Oui, on peut répondre à cette question. Alors, c'est pas le cas. C'est un raccourci en fait, parce que l'orgasme et l'éjaculation, contrairement à ce qu'on croit, c'est deux phénomènes dissociés. Alors ils sont souvent concomitants, ils sont tous les deux le résultat d'une excitation sexuelle, mais c'est deux phénomènes différents. quand il y a un stimulus, une caresse, un baiser, etc., on a les vaisseaux qui se dilatent dans les organes génitaux, on a la verge qui se gorge de sang et qui devient rigide, c'est l'érection.
Ouais.
Mais parallèlement, il se passe des choses aussi dans le périnée. Parce que l'homme aussi a un périnée.
Donc ça, c'est la femme.
Voilà. C'est, donc le périnée, c'est ce muscle qui est situé entre le pubis et le coccyx, et qui soutient la vessie, la prostate et l'intestin. Et lorsqu'il y a de l'excitation, il a tendance à se contracter de plus en plus vite en fonction de l'excitation. Donc ça, c'est deux choses parallèles qui se traduisent. Et à un moment donné, quand l'excitation est trop importante, on assiste au réflexe de l'orgasme, le réflexe orgastique. Donc il est déclenché et se traduit par un brusque relâchement des muscles qui sont tout à coup pris de spasme. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le périnée. Et ce relâchement, il peut être soit associé à du plaisir, soit associé parfois à quelque chose de douloureux finalement, ou de sans saveur.
Voyage au cœur de l'orgasme masculin.
Mais c'est pas très romantique ce que vous venez de nous raconter. C'est passionnant, mais pas très romantique.
Et ben dans un instant, on va. Alors, ben vous avez minuté, ça c'est passionnant dans le Ça m'intéresse, le hors-série, le guide de l'amour et du sexe. Vous avez minuté l'excitation de l'homme et de la femme. Vous allez voir, c'est pas tout à fait pareil. À tout de suite dans la curiosité.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Figurez-vous qu'on a tous un point commun.
Oui.
On a un sexe. Voilà.
C'est et un micro.
Un micro. Et c'est pour ça que ce soir, on parle sexualité, orgasme, couple. Vous pouvez d'ailleurs podcaster l'émission après l'émission, parce qu'on a, on vous a expliqué que le couple, c'est pas une histoire ancestrale. Finalement, au début, nous vivions en groupe et on a fini par s'attacher. Et c'est une histoire passionnante à redécouvrir sur RTL.fr tout à l'heure. Mais tout de suite, avec Corinne Soulet, on parle le chiffre. Vous êtes la responsable éditoriale d'un passionnant guide de l'amour et du sexe, Ça m'intéresse, hors série qui sera en kiosque demain. Vous avez minuté, en fait, en quelque sorte, en combien de minutes l'homme et la femme accèdent à une forme d'excitation. Alors, pour l'homme, c'est combien?
Alors, en fait, c'est des psychologues de l'Université de Montréal.
Mais c'est pas vous-même qui avez minuté, bien sûr.
Je préfère.
On imagine Corinne Soulet avec son chrono à la main.
Pas tout à fait. Donc, j'ai laissé ça à des, voilà,
des scientifiques.
Très bien. Donc, ils ont placé des hommes et des femmes devant des films pornographiques.
Ouais.
Et ils ont chronométré, effectivement, à quel moment arrivait l'excitation, enfin, ils accédaient à l'excitation, en fait.
Alors, les hommes.
Et les hommes en
4 secondes.
64 secondes.
C'est-à-dire, attendez, ça fait quoi ça, voilà. 64
donc,
secondes.
À peu près 11 minutes et les femmes 12 minutes.
Ah bah donc, c'est assez proche.
Ouais, mais c'est
je pensais que ça allait être très compliqué.
Pas... Ah bah oui, j'avais cru
de retrouver la chronologie.
attendez parce
c'est
que
de faire correspondre nos horloges quoi, parce que c'est un peu ça
et
l'histoire.
Il y a un décalage quand même. Il y a un décalage parce que on sait en moyenne, on sait qu'un homme éjacule au bout de 1 à 4 minutes. Alors que la femme, il lui faut entre 3 et 13 minutes pour atteindre l'orgasme, d'où des problèmes de communication.
D'où l'importance des préliminaires.
Tout à fait.
Alors ça, c'est essentiel, vous en
c'est
parlez.
C'est pas qu'une parade amoureuse.
Vous en parlez.
Non, c'est pas qu'une parade amoureuse, c'est hyper important. Et, il dure en moyenne 12 minutes, d'après les chiffres. Et c'est trop peu, selon certains sexologues, parce qu'une femme, pour atteindre l'orgasme, elle passe par plusieurs phases. Mm-hmm. Phase d'excitation, une phase où les tissus érectiles du vagin, de l'utérus et du clitoris se dilatent, le volume des seins augmente, etc. On a une phase de plateau où l'excitation est importante et reste à un niveau important. Et c'est à ce moment-là que le vagin va être lubrifié, donc d'où l'importance des préliminaires. Et ensuite, on a le plaisir qui grimpe d'un seul coup, c'est l'orgasme. Le périnée se contracte de manière incontrôlée voilà, pendant 3 à 12 secondes. Mais donc, il y a plusieurs phases, donc... importance.
Est-ce qu'on peut avoir plusieurs orgasmes d'affilée?
Alors, oui, les femmes peuvent sans problème. Les hommes, s'ils arrivent à maîtriser leur... On a vu tout à l'heure que l'éjaculation et l'orgasme étaient dissociés.
Ouais.
Donc les hommes, s'ils arrivent à maîtriser leur éjaculation, peuvent avoir plusieurs orgasmes d'affilée. Mais s'ils ont une éjaculation, comme on l'a vu, il y a une période réfractaire, juste après. Donc c'est une période qui dure de quelques heures à plusieurs jours. Avec l'âge, avant de pouvoir avoir un nouveau rapport. Quelques minutes
quelques
à plusieurs
heures,
jours.
Quelques heures comme vous
âge.
Y allez.
Tout à l'heure, on se passionnait pour l'histoire de Marie Bonaparte qui a fait déplacer plusieurs fois son clitoris parce qu'elle cherchait désespérément le plaisir. Le clitoris, ça veut dire clé en grec, c'est ça?
Oui, tout
à porte bien son nom.
Oui, tout à
pas
fait.
Pas mal, hein?
Oui, oui.
En fait, c'est pas qu'un petit bout de chair émergé. Vous racontez dans le hors-série, ça m'intéresse, qu'en fait, il enfouit ses racines, ses connaissez ça assez profondément ?
Alors en fait, nous on connaît le morceau de chair qui dépasse hein, là, et en fait, il est prolongé par 4 racines d'une dizaine de centimètres, très innervées, et qui vont former une bague autour du vagin. Et qui vont se mettre, c'est des tissus érectiles, donc comme le pénis, vont se mettre à augmenter leur volume de 30% s'il y a une stimulation.
Alors moi je suis tombée de ma chaise quand j'ai lu dans votre hors-série de Ça m'intéresse que la première grande description anatomique du clitoris date de 1998.
Ouais, 1998, c'est pas si longtemps que ça. Et l'échographie complète, la première échographie complète du clitoris, c'est 2007. Donc c'est
quoi ? C'est une forme de tabou, d'une certaine façon. Il y a encore, on avait reçu Diane Ducret ici, ouais, qui a écrit
La chair interdite.
Passionnant, La chair interdite, sur la peur du sexe féminin.
Mais il y a la peur
du sexe
féminin. À travers
les âges et les cultures, donc il y a un peu de ça aussi.
Et puis il y a aussi sans doute l'image d'une infériorité toujours de cet orgasme. Et puis oui, la peur. Puis,
On revient à Freud. L'orgasme féminin est inférieur à l'orgasme masculin, donc les scientifiques s'y intéressent moins.
Et l'orgasme clitoridien est inférieur à l'orgasme vaginal. Oui. Vous imaginez comme on tombe bas.
Donc tout ça peut expliquer l'absence d'études scientifiques.
Le sexe masculin est donc voilà, par essence on sait qu'il est érectile. Le sexe féminin il est à l'intérieur.
Oui, ça demande plus de
caché,
travail évidemment.
Il est plus caché et voilà, donc il nous révèle ses mystères petit à petit.
Alors il y a plein de dans ce guide de l'amour et du sexe, ça m'intéresse hors série là qui sort en kiosque dans les prochains jours. Il y a plein de petits encadrés avec des questions-réponses. On va le faire. Hein. Le point G. Est-ce que le point G existe ?
Oui, il existe. Alors il y a eu beaucoup d'études.
Parce que l'année dernière, il n'existait pas, alors il faut savoir. Hein. C'est vrai.
Il y a eu plein d'études quand même, et à force, on tombe à peu près sur 80% des femmes qui disent qu'elles sentent qu'une région de leur vagin est plus sensible. Alors, cette zone, elle est située à peu près 3 à 4 cm après l'entrée du vagin sur la paroi antérieure.
D'accord.
Et comme par hasard, elle correspond à l'endroit où convergent les branches du clitoris.
Comme par hasard.
Donc, on en revient à cette histoire d'orgasme vaginal ou clitoridien qui serait finalement le même, puisque le point G serait finalement un prolongement du clitoris.
On continue nos questions-réponses. Ouais.
Question qui taraude beaucoup d'hommes.
Ah bah allez-y, c'est votre question.
C'est moi qui la pose.
Bah
oui, combien de femmes avouent avoir déjà simulé leur plaisir ?
Alors j'ai des chiffres qui viennent d'une enquête IFOP qui a été publiée lors de la dernière journée mondiale de l'orgasme, parce que oui, il y a une journée mondiale de l'orgasme, c'est le 22 décembre, sachez-le.
Il y a des journées mondiales pour tout, hein, oui, voilà. Ça ne m'étonne pas qu'il y en ait une pour l'orgasme.
Et donc il montrait que 63% des Françaises admettaient avoir déjà simulé l'orgasme au moins une fois dans leur vie.
Combien vous dites ?
63%.
D'accord.
Et 1/10 avoue que ça leur arrive souvent.
1/10 ? Bon, c'est pas
tant que ça. Moi, je trouve
c'est
que
pas
c'est
tant.
Ouais, ça aurait pu être pire.
Corinne Soulet, pourquoi parle-t-on de 7e ciel ?
Alors, ça vient de l'Antiquité, en fait. À l'époque, on pense que l'univers est organisé autour de la Terre. Les planètes tournent autour et elles sont chacune enfermées dans une sphère de cristal qui constitue un ciel. Et donc... Chaque sphère correspond à un ciel, et il y a 7 ciels au total, et le 7e ciel, c'est celui qui est le plus proche de Dieu, donc on a la métaphore de l'extase mystique finalement.
On vous a perturbé parce qu'on se faisait des grosses lignes avec Sidonie, parce que le temps file, et il y a une question qu'on a promise aux auditeurs de RTL, donc il faut la garder pour terminer.
Ah oui.
Le bavardage. Oui. Bavarder au lit, alors bavarder au lit, est-ce que c'est bon ou mauvais pour le plaisir ? Déjà, c'est surprenant d'avoir cherché un lien entre le bavardage et le plaisir.
Bah, c'est des chercheurs de Cleveland qui ont cherché ce lien en 2012, et donc ils ont interrogé 200 personnes et ils se sont aperçus que celles qui ont déclaré avoir peur de s'exprimer pendant l'acte se sont révélées les moins épanouies sexuellement.
Donc il faut causer.
Mais rassurez-vous, la communication non verbale avec des cris, des gémissements, etc.
Ça marche aussi.
Ça fonctionne tout aussi bien.
Bon, bah c'est parfait. Merci infiniment, Corinne Soulet. Encore des centaines d'infos, et c'est pas un euphémisme, à découvrir dans Ça m'intéresse hors série, le guide de l'amour et du sexe. Il est en kiosque à partir de demain. Merci beaucoup, c'était passionnant.
Merci, Corinne Soulet. Reste-t-il des parrains en France ? Le milieu est-il toujours dirigé par quelques hommes plus intelligents, plus sanguinaires que les autres ? Ce soir sur RTL, on plonge dans le grand banditisme.